Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si certains connaissaient ce témoignage. Donc Alexis Masson, qui effectivement est passé de l'athéisme au christianisme. On peut peut-être juste allumer pour éviter qu'on puisse s'endormir cet après-midi. Alexis a fait l'expérience de la foi, vous l'avez entendu, et pourtant ce n'était pas gagné pour cet ancien athée. Alors, comment vient-on à la foi? Comment devient-on chrétien? Quel est le processus qui nous a amenés à croire en Jésus? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Regardons cet après-midi dans la parole de Dieu et voyons comment cela s'est passé pour l'un des disciples de Jésus. Il n'y a pas si longtemps, Thomas faisait partie du groupe des 12, des 12 disciples, et il suivait son maître Jésus. Mais ce dernier a été arrêté, puis condamné injustement, alors qu'il avait été reconnu innocent par le pouvoir romain. Jésus a été crucifié comme un brigand. Il est mort sur cette croix. Et ce fameux dimanche, Jésus est sorti du tombeau. C'est ce que nous avons célébré dimanche dernier. Et dans son évangile, au chapitre 20, Jean nous rapporte trois apparitions de Jésus ressuscité. Bien sûr, Jésus est apparu beaucoup plus de fois, mais ici, Jean choisit trois apparitions de Jésus. Notamment, il apparaît d'abord à Marie de Magdala, qui pensait que quelqu'un avait enlevé le corps de Jésus. Ensuite, il apparaît aux disciples, mais sans la présence de Thomas. Et puis enfin, il apparaît de nouveau aux disciples, mais au moment où Thomas lui-même est présent. Et c'est à cette dernière scène que nous allons nous intéresser aujourd'hui. J'aimerais vous inviter à lire, à suivre la lecture de la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 20, à partir du verset 24. L'un des 12, Thomas surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Cette partie de l'évangile est très célèbre, et sans doute que vous avez déjà entendu cette histoire maintes fois. À cause de son incrédulité, à cause de son refus de croire à ce moment-là, Thomas a conservé malgré lui une mauvaise réputation parmi les croyants. Il est réputé pour être celui qui doute. Mais soyons honnêtes, aurions-nous fait mieux que lui à ce moment-là? Réfléchissons ensemble cet après-midi à cette question. Est-ce que nous avons besoin de voir Jésus pour croire en lui? Quand je dis voir Jésus, c'est le voir de nos propres yeux, voir le ressuscité, voir celui qui a été crucifié. Est-ce que nous avons besoin de voir Jésus pour croire en lui? Vous avez 4 heures. Je vous propose d'examiner de plus près 3 répliques dans notre texte, en lien avec le sujet de la foi, et qui nous permettront de répondre à cette question. La première réplique, c'est celle de Thomas. « Si je ne vois pas, je ne croirai pas. » Au moins, la réponse est très claire. Thomas, qui n'était pas présent au moment de la première apparition de Jésus, eh bien, il a du mal à croire. Alors, on peut se demander qu'est-ce qu'il faisait loin du groupe à ce moment-là, pourquoi il était absent. Nous ne le savons pas. Mais lorsque ses compagnons s'empressent de lui annoncer la bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle puisqu'ils disent « Nous avons vu le Seigneur !» Eh bien, Thomas demeure sceptique. Thomas ne veut pas croire. La version de 10 témoins ne vient pas à bout de son incrédulité à ce moment-là. 10 personnes lui disent « Nous avons vu le Seigneur » et lui nous dit qu'il ne croira pas, à moins de voir Jésus. Alors, il y a deux manières peut-être d'expliquer sa réaction. La première, c'est que si Thomas croit quand même que les autres disent vrai, eh bien, on peut supposer sa déception. Déception d'avoir manqué ses retrouvailles, de ne pas avoir été là le jour même. Il voit combien ses compagnons sont tout joyeux, alors que juste avant, leur morale était au plus bas. Donc, il voit qu'il y a sans doute eu un changement chez eux. Quelque chose s'est passé. Et si ses camarades ont bien raison, lui aussi, il veut être un témoin oculaire. Lui aussi, il veut voir Jésus. Pourquoi eux et pas lui? Et d'où sa réaction. Tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. Deuxième manière d'expliquer sa réaction, il ne croit pas au témoignage de ses compagnons. Pour lui, c'est peut-être une hallucination collective. Ils souhaitaient tellement voir Jésus qu'ils ont cru le voir. Et Thomas réclame des preuves. Il pose une condition. Il faut qu'il puisse voir et même toucher Jésus pour croire qu'il est bel et bien vivant. Thomas pose une condition. Il ne va pas croire si facilement. Et seule la marque des clous et le côté percé de Jésus permettrait à Thomas d'identifier le crucifié. À moins de revoir Jésus vivant, il ne croira pas. Et en fait, lorsqu'on regarde plus précisément le texte grec, nous voyons qu'il y a une négation qui est forte ici, qui est employée. Thomas dit résolument « Je ne croirai pas ». Ou comme le suggère la version de la Nouvelle Bible Second, « Si je ne vois pas, je ne le croirai jamais ». Donc nous voyons à quel point Thomas est déterminé dans son incrédulité. « Je ne croirai pas, tant que je n'ai pas vu ». Et nous voyons aussi à quel point la résurrection de Jésus était impensable pour les disciples à ce moment-là. Nous avons l'impression que Thomas est pointé du doigt ici, mais nous voyons un peu plus, notamment dans les autres évangiles, que les disciples ont eu du mal aussi à croire avant lui. Ils ont eu du mal à croire malgré le témoignage des femmes qui ont affirmé avoir vu le ressuscité. C'est le texte de Luc 24 que nous avons vu la semaine dernière. Eux aussi, les autres disciples, ont eu leur moment d'incrédulité. Il ne faut pas l'oublier. Et à quel moment ont-ils commencé à croire? Eh bien, lorsqu'ils ont vu Jésus. Lorsqu'ils ont vu Jésus ressuscité devant eux. Là, ils ont commencé à croire, effectivement. Donc, ce qui nous semble être la faiblesse de Thomas n'est pas propre à Thomas. Mais ce qui demeure marquant dans sa déclaration, c'est son refus de croire, malgré le témoignage de ses compagnons. Il ne veut pas croire. Est-ce que vous connaissez aussi des personnes qui réclament de voir pour pouvoir croire? Est-ce que vous connaissez des personnes qui réclament des preuves pour pouvoir croire? Peut-être étiez-vous de ceux-là, d'ailleurs. Peut-être que certaines personnes vous ont demandé des preuves physiques au sujet de Jésus. Si tu crois en Jésus, montre-le-moi. Montre-moi Jésus. Où est-il? Et les disciples étaient bien incapables de répondre à la demande de Thomas. Thomas demandait des preuves, mais les disciples étaient incapables de lui montrer Jésus à ce moment-là. Jésus était apparu, mais il n'est pas resté avec eux. Alors, où est-ce qu'ils vont le chercher? Et d'un certain côté, nous nous sentons sans doute tout aussi désemparés lorsqu'on nous réclame des preuves. Nous ne pouvons pas donner ces preuves-là. Nous pouvons parler de Jésus, mais nous ne pouvons pas le présenter en personne, comme on présenterait un ami, physiquement. Et au-delà de nos mots, au-delà de nos arguments, il faut que le Seigneur se révèle pour que les autres puissent croire. Thomas avait peut-être raison sur un point. La foi doit reposer sur des fondements solides. Et qu'y a-t-il de plus solide que de voir de ses propres yeux Jésus ressuscité? Quelle preuve plus solide que cela pour croire? De voir ce que sa raison refusait de croire. Mais la foi ne s'appuie pas uniquement sur une expérience sensible. Même si d'ailleurs dans le témoignage d'Alexis, on voit qu'il a vécu une expérience sensible, qu'il a entendu une voix mentale, qu'il a senti quelque chose. Mais la foi ne s'appuie pas uniquement sur une expérience sensible. La foi répond clairement à une révélation de Dieu. Et au doute de Thomas, Jésus va lui répondre « Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Et c'est l'objet de cette deuxième réplique sur laquelle j'aimerais m'arrêter. « Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Dans sa bonté, le Seigneur apparaît à nouveau à ses disciples, 8 jours après. Donc pendant toute une semaine, Thomas est resté avec ses doutes et il n'a pas voulu croire. Et là où les disciples n'ont pas réussi à convaincre Thomas, eh bien Jésus l'a fait. Et ce jour-là, Thomas était là. Et cette apparition de Jésus est en quelque sorte spécialement pour lui. Comme vous le constatez dans le texte, point par point, Jésus répond à son disciple qui doute. Jésus lui montre ainsi qu'il avait tort de ne pas croire. Et comme aux autres disciples, Jésus lui montre ses mains percées et son côté percé. Avant de l'inviter à la foi, ne sois donc pas incrédule, mais crois. Littéralement, ne sois pas incroyant, mais croyant. Ne sois pas incroyant, mais croyant. Il y a à la fois dans ces mots de Jésus une mise en garde, voire un reproche, et un appel. D'abord la mise en garde. Jésus met en garde contre le cœur qui s'endurcit, contre le cœur qui ne veut pas croire. Et Jésus répond à cette faiblesse de l'homme qui a tendance à refuser la vérité malgré l'évidence. Or, la réalité se trouve maintenant en face de Thomas. Le crucifié est bel et bien vivant. Et après le reproche, c'est l'appel de Jésus à la foi. Crois. Sois croyant. La manière dont l'histoire de Thomas nous est racontée nous fait comprendre que Thomas aurait dû croire, sans poser de conditions, sur la base du témoignage des autres disciples. Et même avant, sur la base de l'identité de Jésus, il devait savoir que, puisque Jésus est le Seigneur, il ne devait pas douter de sa résurrection, que cela pouvait être possible. Thomas aurait dû croire sur la base de ce que Jésus avait annoncé, lorsqu'il a notamment annoncé qu'il ressusciterait. Et encore plus, Thomas ne devait pas douter, il aurait dû croire sur la base de ce qui était déjà écrit dans les Écritures, ce qui se trouvait déjà dans les textes anciens. Mais nous constatons que ni lui, ni les autres disciples n'avaient compris cela. Et c'est ce que nous lisons au début du chapitre 20. Pierre et Jean se sont rendus au tombeau et l'ont constaté vide. Jean a vu les linges funéraires sans le corps de Jésus et il a cru, nous rapporte le texte. Mais il a cru sans faire le lien avec la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons au verset 9. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter comme l'avait annoncé l'Écriture. Ils n'ont pas fait le lien avec ce qui était déjà annoncé d'avance par les prophètes d'autrefois. Cela avait été annoncé par Dieu, mais à ce moment-là, il ne faisait pas du tout de lien entre la résurrection et les prophéties de Dieu. La résurrection de Jésus faisait partie du plan de Dieu. Cela devait se produire. Et Thomas aurait dû croire à ce moment-là, sans même avoir vu Jésus, simplement parce que Dieu l'avait dit dans les Écritures. Mais Thomas avait besoin d'un déclic. Et il répond à la révélation qui se trouve sous ses yeux. Il s'exclame tout simplement « Mon Seigneur et mon Dieu !» Thomas confesse personnellement que Jésus est son Dieu. Et quand un Juif fait une telle déclaration, il fait référence au Dieu auquel il croit, au Dieu d'Israël. Thomas reconnaît ici que Jésus est Dieu, Dieu en chair et en os, le Seigneur en personne. Et cela fait écho à ce que Jean écrivait déjà au début de son évangile. Nous lisons au chapitre 1, verset 1. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Et nous parlons de Jésus ici. Et au verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Donc dès le début de son évangile, Jean affirme que Jésus est Dieu. Et ici, à la fin de l'évangile, eh bien il en est de même, sauf que c'est Thomas qui le déclare, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Selon certains spécialistes, avec cette déclaration de Thomas, nous sommes au point culminant de l'évangile de Jean. Enfin, un homme reconnaît que Jésus est Dieu. Le disciple qui doutait de la résurrection depuis plus d'une semaine est tout d'un coup saisi par la révélation qui est sous ses yeux. On imagine que tout ce que Jésus avait dit à son sujet lui est revenu en tête. Que tout fait sens maintenant. Les miracles de Jésus, ses enseignements, ses promesses, ce qu'il avait annoncé concernant sa mort et sa résurrection. Oui, Jésus est vraiment Dieu. Et Thomas s'en rend compte maintenant. Cela ne fait plus aucun doute. Et à sa place, nous aurions dit la même chose en voyant Jésus tel qu'il est. La foi en Christ ne se résume pas seulement au fait de croire que Jésus est ressuscité. C'est déjà une vérité importante, mais cela ne se résume pas qu'à ça. Encore faut-il affirmer que Jésus est Dieu. Et dans la suite de notre texte, eh bien, Jean explicite le but de son livre. Pourquoi l'a-t-il écrit ? Eh bien, il le dit. Ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. La foi en Christ est donc une question vitale. Quand Jésus appelle à croire, il dit en quelque sorte « Crois afin que tu aies la vie ». Il ne s'agit pas d'embrasser une religion parmi toutes celles qui existent sur terre. Il s'agit de croire en la personne de Jésus. De croire qu'il est Dieu, Dieu le Fils. De croire que sa mort et sa résurrection font partie du plan de Dieu pour pardonner tous nos péchés et pour nous sauver. Et que Jésus est vraiment venu pour ça. Et c'est ce Jésus que nous voulons annoncer à celles et ceux qui sont éloignés de Dieu. Parce que c'est une question vitale. Crois afin que tu aies la vie. Nous avons vu que Thomas a déclaré « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». À quoi Jésus a répondu « Ne sois pas incrédule, mais crois ». À présent, qu'en est-il de nous ? Eh bien, la troisième réplique, c'est Jésus qui l'a dit également « Heureux ceux qui croient, sans avoir vu ». Et Jésus dit cela alors qu'il vient de donner des preuves visibles et suffisantes pour que Thomas puisse croire. Et souvenez-vous de la question de départ que nous nous posons. Faut-il voir pour croire ? « Parce que tu m'as vu, tu crois », dit Jésus à Thomas. Et c'est vrai qu'on oppose souvent la foi et la vue. Mais la vue ici était nécessaire. nécessaire pour que les premiers disciples de Jésus puissent être ses témoins. Il fallait que les premiers disciples de Jésus puissent voir Jésus ressuscité pour en témoigner. Si nous n'avions pas de témoin oculaire de cette résurrection, nous n'aurions pas non plus de foi chrétienne. Et si la résurrection n'avait pas été attestée par des témoins comme Jean, eh bien les conséquences auraient été terribles pour les chrétiens. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de ces conséquences si Christ n'était pas ressuscité, dans 1 Corinthiens 15, versets 17 à 19. « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Revenons à notre texte. Comme un commentateur le suggère, je ne pense pas que Jésus fasse un reproche ici à Thomas. Quand il dit « parce que tu m'as vu, tu crois ». Jésus ne fait pas de reproche. Le reproche, il l'a fait juste avant. Mais ici, Jésus ne rabaisse pas la foi de son disciple, parce qu'il lui fallait voir pour croire. Jésus souligne au contraire que ça y est, Thomas a la foi. Il a fini par croire, lui qui était incrédule. Mais Jésus dit quelque chose de plus. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Nous avons ici une béatitude. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus déclare « heureux », déclare « béni » tous ceux qui croiront en lui après son ascension, après son retour auprès du Père. Heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Il parle de ce temps dans lequel nous vivons d'ailleurs, où il ne montre plus de preuves tangibles comme il l'a fait avec ses disciples, en apparaissant sous leurs yeux. Alors bien sûr, Jésus peut faire des exceptions. Nous le voyons notamment avec l'apôtre Paul. Nous le voyons également par certains témoignages que nous entendons de la part d'anciens musulmans. Oui, Jésus fait des exceptions, mais ce sont des exceptions. Et pour la plupart d'entre nous, je ne vais pas jusqu'à dire tous, je ne sais pas, mais pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas vu Jésus de nos propres yeux, ni la marque des clous dans ses mains, avant de croire. Cette parole que Jésus prononce nous concerne. Elle est pour celles et ceux parmi nous qui ont cru sans avoir vu. Nous avons cru comme Thomas a cru. Et la foi de Thomas n'est pas moindre par rapport à notre foi, tout comme notre foi n'est pas supérieure à la sienne. Car dans les deux cas, nous avons placé notre confiance en la même personne. Jésus, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et si nous croyons sans avoir vu ou sans avoir besoin de voir, c'est parce que notre foi repose précisément sur le témoignage des apôtres. Nous croyons parce que d'autres ont vu. D'ailleurs, lorsque nous témoignons, nous ne faisons que renvoyer au témoignage des apôtres. Ce n'est pas parce que nous, nous avons vu que nous croyons, mais d'autres ont vu et nous croyons. Et avant la croix, Jésus avait prié à ce sujet pour que cela puisse se produire. Dans une prière, voici ce qu'il dit. En s'adressant au Père, ce n'est pas seulement pour eux, c'est-à-dire pour ses propres disciples, à ce moment-là, que je te prie, mais c'est aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leur parole, grâce à leur témoignage, grâce à ce qu'ils pourront dire aux autres, parce que eux auront vu le ressuscité. Je te prie pour ceux qui croiront en moi, grâce à leur parole. Jésus ne dit pas « ceux qui croiront en moi parce qu'ils m'auront vu », mais grâce à leur parole. Donc, notre foi repose sur le témoignage des apôtres. Ce qui compte pour nous, frères et sœurs, ce n'est pas d'avoir vu Jésus de nos propres yeux, mais c'est d'avoir cru en lui, comme Thomas. C'est d'avoir la foi de Thomas, la foi par le moyen duquel Dieu nous sauve. Et c'est en cela que nous sommes heureux, car nous bénéficions de cette promesse que quiconque croit en lui ne sera pas séparé de Dieu, mais a la vie éternelle. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre aussi écrit à des chrétiens en leur disant ceci: Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut, qui est le but de votre foi. Vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Comment est-ce possible? Comment peut-on aimer quelqu'un qu'on n'a pas vu? Voilà ce qui compte réellement pour nous qui vivons après l'ascension de Jésus. Nous croyons sans voir notre Sauveur. Et nous croyons en sa parole qui affirme que nous sommes sauvés dès lors que nous avons placé notre confiance en lui. Notre foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de la parole de Christ, disait l'apôtre Paul. Rappelez-vous, notre foi répond à une révélation de la part de Dieu. Et Dieu s'est révélé à nous par sa parole. Nous n'avons pas besoin de voir. Dieu s'est révélé à nous par le témoignage des apôtres qu'ils ont laissé. Et par leur témoignage, ils ont déclaré que le Seigneur Jésus est vivant, ressuscité. Donc, nous croyons sur la base de leur parole, qui est la parole de Dieu aussi. Cette foi sans la vue semble tellement folle aux yeux du monde. Nous croyons en quelqu'un qu'on n'a pas vu, qu'on n'a jamais vu. Et pour moi, c'est bien la preuve que cette foi vient de Dieu. Parce qu'elle dépasse ce que nous aurions tendance à faire naturellement, c'est-à-dire croire uniquement ce que nous voyons. Cette foi sans la vue, c'est bien l'œuvre de Dieu. C'est bien Dieu qui, dans sa grâce, nous donne de croire, d'avoir confiance en lui par Jésus-Christ. Et la foi ne nécessite pas d'avoir vu, mais elle nécessite que Dieu ait agi dans notre cœur. Sans Dieu, nous ne serions pas parvenus à la foi. Sans Dieu, Alexis serait encore un athée qui cherche à convaincre des chrétiens. Sans Dieu, personne de notre entourage ne laissera de lui-même ses doutes. Alors nous devons d'autant plus remercier Dieu de nous avoir fait grâce, de nous avoir donné cette foi sans la vue. Thomas a voulu des preuves pour croire que Jésus était ressuscité. Il a dit « Si je ne vois pas, je ne croirai pas ». Mais finalement, devant la révélation du ressuscité, Thomas a cru. Il a répondu à la parole de Jésus « Ne sois donc pas incrédule, mais crois ». Et c'est sans doute cela que nous devons avant tout retenir de Thomas, un disciple avec lequel Jésus a été patient et qui a fini par croire. Cet après-midi, je reste persuadé que le bonheur est du côté de ceux qui croient aujourd'hui, sans avoir vu leur Sauveur. Alors, avons-nous besoin de voir Jésus pour croire en lui? Non, pas dans l'absolu. Et c'est ce qui nous donne de l'espoir pour notre entourage, qui ne connaît pas le Seigneur. Eux aussi pourront croire sans avoir vu. Ils n'ont pas besoin de voir pour croire. Cela nous donne de l'espoir. Et nous pouvons continuer à témoigner de Christ. Car ils croiront sans avoir besoin de voir. Et si sur cette terre il en est ainsi de l'expérience de la foi, la Bible nous enseigne aussi qu'un jour, nous verrons vraiment Jésus. Comme Thomas l'a vu, avec ses marques, ces cicatrices qui nous montrent qu'il nous a aimés jusqu'à donner sa vie à la croix. nous le verrons de nos propres yeux. Et comme le dit Jean dans sa première épître, au chapitre 3, verset 2, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, c'est-à-dire lorsqu'il reviendra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Aujourd'hui, nous ne le voyons pas, mais un jour, nous le verrons de nos propres yeux. Et ça, c'est notre espérance aujourd'hui. Un jour, nous verrons Jésus de nos propres yeux. Et c'est sans doute ma plus grande attente. Amen. Je vous invite à pouvoir méditer sur ce que vous avez entendu et en même temps, eh bien, un chant accompagnera ce moment de méditation. Ce chant qui dit « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ».
Jésus, je sais qu'un jour, Dieu verra.